Je m'installe 2 minutes. Faut être plus à l'aise. Alors, je veux évidemment remercier les organisateurs de cette rencontre, de ces 2 journées où malheureusement je ne peux pas assister à la totalité de vos débats, mais déjà je veux remercier également le précédent intervenant parce qu'il m'a donné plein d'idées. Je ne suis pas hostile, loin de là, à la géographie, mais c'est vrai qu'en histoire de la médecine, je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. Donc ça m'oblige, et c'est une très bonne chose, un peu à juste réorienter mon propos. Au début, je me suis dit, oh là là, ça ne va pas tellement coller. Et en fait, je pense que ça va coller. Mais je vous en laisse juger, évidemment. On en discutera tout à l'heure. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint, comme ça, il y a un support visuel. Ça m'approche sera moins désagréable, surtout pour parler de choses un peu tristes, parce que je viens de vous parler de maladie. C'est d'actualité, effectivement, avec une réflexion. J'espère pas trop longue, sinon vous me faites des signes pour me faire taire, parce que je suis bavard. Expertise savante et vérité plurielle en période d'épidémie, une réflexion que je qualifie de biohistorique. Alors c'est un peu ma spécialité, j'aime l'histoire du corps et de la médecine, et tout ce qui s'y rattache, plutôt dans les périodes anciennes. Je ne vais pas trop vous parler du Moyen Âge, vous inquiétez pas, hein, même si vous voyez une illustration médiévale. Je trouvais qu'elle était intéressante et un peu rigolote parce que le transi qui symbolise la mort passe au-dessus du médecin qui est tranquillement assis et qui est en train de regarder la transparence des urines pour essayer de voir bon, quelles sont les humeurs vicieuses ou voilà, mal placées qui vont emporter le patient. Bon, alors, en introduction quand même. Je vais essayer de reconnecter un peu les choses, parce que je ne veux pas du tout vous faire de l'histoire bête et méchante de la médecine, mais bon, on vit une période de pandémie, donc déjà au niveau de l'échelle, les choses sont à peu près claires, et je dirais que, bon, je ne veux pas vous choquer, mais au moins si, heureusement ou malheureusement, la Covid-19 a eu une vertu, c'est de faire comprendre ce que c'était qu'une pandémie et que, en fait, bah, les maladies, elles circulaient. Il y a plein de gens qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un virus et comment ça se faisait que bah, le monde entier pouvait être frappé par une sorte, entre guillemets, d'unification, de mondialisation microbienne. Alors, je vais revenir plutôt sur le terme d'épidémie, parce que épidémie, c'est intéressant. C'est ce qui tombe un petit peu du ciel et qui frappe le démos, donc toute une population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une crise, l'épidémie est une crise par définition, ça vient toujours d'ailleurs. C'est-à-dire c'est d'un autre territoire et puis ça arrive sur son territoire. Avant, on était très bien, puis l'épidémie, ça vient d'ailleurs. C'est l'autre, finalement, hein, qui nous apporte l'épidémie. Comme si, finalement, il y avait une sorte d'extension d'un territoire malsain vers un territoire qui était sain. Bon, c'est un premier point. Mais une des conséquences de ces épidémies, ce qu'on observe quand même en histoire, c'est que la crise, elle entraîne une fragmentation des savoirs. Sous-entendu, et on va le voir. Alors j'ai un truc qui apparaît sur mon ordinateur que vous ne voyez pas pour configurer Office. Alors je ne sais pas si c'est normal, vous ne voyez pas ça, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que je dise ça pour le service technique. Il ne le voit pas non plus. Bon, je ne sais pas. Je vais essayer de couper ça. Demande de me connecter. Oui, non, c'est normal. Pour configurer Office. Bah, regardez, c'est vous le chef. Le truc, c'est que, si vous voulez, cette fragmentation des savoirs, elle intervient assez systématiquement lors des crises majeures, hein, et elle intervient notamment par une scission entre le savoir parisien et le savoir provincial. Vous voyez qu'on revient au territoire. Et ce qui se surajoute un peu à cette crise, à cette dissociation, c'est une critique assez systématique qui intervient à un moment donné du savoir que je qualifierais d'hors sol. qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont pas contact avec le terrain, avec la réalité, et qui viennent nous apprendre des choses ou nous imposer des choses? Vous comprenez bien que quand je parle d'un savoir hors sol qui est critiqué, je parle également du savoir qu'agitent les autorités et qui vient justifier des décisions. C'est-à-dire ceux qui sont hors sol, c'est aussi les autorités, donc les décideurs, et ensuite on critique les savants. Donc là aussi, il y a un rapport de force territoriale qui n'est pas à négliger. Le résultat, c'est que ce qu'on observe et ce qu'on peut observer, c'est l'apparition de ce que je qualifierais, et vous allez retrouver le spectre de Michel Foucault, les territoires du vrai ou du vraisemblable. Il y a des territoires du vrai ou du vraisemblable qui apparaissent, qui éclosent comme ça, quand il y a des crises, et notamment des épidémies, et on se dit, tiens, mais en fait, la vérité, elle est plurielle. On ne nous l'avait pas dit, ça. Comment ça? Les sciences dures, les sciences exactes ne sont pas d'accord entre elles, ou les gens ne sont pas d'accord avec les sciences exactes. Mais de quoi ils se mêlent? Vérité plurielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je termine cette introduction rapide, enfin, je l'espère, toute crise fragmente les savoirs, la question est de savoir, est-ce qu'elle les territorialise à un moment donné? Et est-ce qu'on accepte de dire, écoutez, il y a une vérité à tel endroit, et puis il y a une erreur au-delà? Hein, c'est le truc de Blaise Pascal, hein, c'est archi-classique. Tel quel, quand on lit dans les pensées, on ne comprend rien. On dit, oui, bon, c'est la relativité des opinions, c'est pas intéressant. Mais si la relativité ne concernait pas que les opinions, mais aussi le savoir, entre guillemets, un peu dur. Ça, c'est plus compliqué, en fait. Alors, je prends trois exemples. Je ne remonte pas très loin, quoique. Choléra de 1832, 100 000 morts en 7 mois, on ramasse les cadavres à pleine charrette, ou charretée, je ne sais pas comment il faut dire, dans la capitale et ailleurs. C'est un choléra qui vient du sous-continent indien. Il arrive par la Méditerranée, il arrive par l'Europe de l'Est aussi, les pèlerins de la Mecque, le commerce, le déplacement de population. C'est assez classique, hein, la plupart des grandes épidémies viennent toujours d'Asie. Bon. Ok, donc ça vient encore de l'étranger, ça vient encore d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces territoires et ces populations qui nous envoient des miasmes, et on ne comprend pas du tout le vecteur de contagion et de diffusion du choléra à l'époque. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. On pense qu'effectivement c'est dans l'air, et comme l'air se déplace comme il veut, il n'y a pas de territoire, l'air. Bon. Comment faire pour stopper la contagion? Mais ça, c'est un premier élément. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que cette crise du choléra en 1832, elle s'est avérée catastrophique du point de vue de la crédibilité. Je dirais même pas des décideurs ou des politiques. Le premier ministre de l'époque, qui est Casimir Perier, d'ailleurs, va mourir du choléra. C'est le fait qu'on était convaincu en 1832 que la France était au top de la recherche médicale. C'est-à-dire qu'on était passé progressivement dans l'âge de la clinique, donc dans quelque chose d'expérimental. Bon, alors on a à peu près la période de Claude Bernard, juste un peu avant, pas encore dans la médecine expérimentale institutionnalisée et enseignée comme telle, mais voilà, normalement, Molière, c'est fini. Et en réalité, on s'aperçoit que Molière, c'est pas fini, et que celui qu'on appelle le Napoléon de la médecine de l'époque, hein, le grand, grand, grand médecin, François Brousset, plein de médailles, plein d'honneurs, plein de titres, etc., qui a dit non, les humeurs, ça sert à rien. Moi, j'ai tout compris au corps humain et à ces épidémies, à ces maladies, ça vient des stimuli, donc de l'irritabilité. Donc, le corps est irrité par quelque chose, il réagit, donc il faut stopper cette irritation. Et en faisant stopper les différents types d'irritation, on stoppe les maladies. Sauf qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est-à-dire, les gens qu'on présente comme les grands penseurs, les grands savants, les grandes autorités qui ont remplacé et surtout qui ont fait voilà, le ménage dans tout ce fatras sordide de vieilles conceptions moliéresques au niveau de la médecine, ben, ces gens-là se trompent. Et donc la réaction va être, réaction d'ailleurs parisienne, mais pas simplement, de dire, mais en fait, ils nous racontent n'importe quoi, on a remplacé les médecins de Molière par d'autres médecins, et François Brousset, lui, sa spécialité notamment, c'est les sangsues. Bon. Alors, il en met partout, hein, encore 90 sangsues et continuer la diète. Donc, le fait de caricaturer ces hommes de savoir, ce n'est pas simplement une caricature souriante pour exorciser la hantise de la mort. Hein, parce que quand vous avez comme ça des milliers de morts quasiment par jour dans Paris à cette occasion, il est certain qu'il est difficile de garder le moral. Mais là, on s'attaque en fait à une espèce de promesse qui n'aurait pas été tenue, c'est-à-dire, vous avez promis, vous, les gens des académies, du Collège de France, des grandes facultés, de nous débarrasser des anciennes conceptions qui n'étaient pas efficaces. Et en fait, il y a une épidémie, vous ne savez pas stopper la contagion, les gens meurent les uns après les autres, on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, et vous arrivez avec vos théories et vous leur apposez des sangsues. Et effectivement, ça ne fonctionne pas. Et en plus, pour la petite histoire, Brousset est mort d'un cancer du rectum. Bon, je termine sur cet exemple. Je passe sur mon deuxième exemple, qui est plus récent, le cas du H1N1 2009-2010. Alors, 18 morts dans le monde, on ne sait pas, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque, on n'a pas une veille sanitaire aussi efficace qu'aujourd'hui pour la Covid, même si, bon, pour les pays du Sud, c'est compliqué, les comorbidités, etc., le sous-enregistrement, les pays pour qui, officiellement, il n'y a pas de problème, ou ceux qui n'arrivent pas à différencier une grippe saisonnière classique d'une épidémie avec le même virus. Hein, quand c'est le H1N1 chaque année, pourquoi le H1N1 serait différent telle ou telle année? Bon, il y a des pays où c'est un peu compliqué. Bon, 312 victimes, j'allais dire en théorie, hein, bon, et peut-être plus. Bon, officiellement, voilà, c'est le chiffre qui est à peu près retenu, avec la pauvre Roselyne Bachelot-Larquin. Docteur en pharmacie qui, à un moment donné, se retrouve confronté à cette épidémie et ce risque de pandémie. Bon, la suite de l'histoire, évidemment, vous la connaissez. Alors, on achète des masques, on essaie de vacciner la population. Bon, on fait peur, je mets des guillemets. Une grande partie de la population, elle dit qu'il va y avoir des morts. Moi, je me souviens, un des nombreux débats, une nombreuse intervention de cette ministre qui dit mais il va y avoir des morts. Il y a le mot mort, hein, donc attendez, il va y avoir des morts, vous allez mourir, donc il faut le faire. Bon, entendu, on va utiliser effectivement des affects pour dire, à un moment donné, si la raison ne fonctionne pas, on va utiliser l'émotion, donc la passion. Bon. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'épidémie, mais le savoir, donc c'est l'inverse du choléra, c'est-à-dire choléra de 1832, on dit les autorités sont incapables, regardez, il y a plein de morts. Et en 2009-2010, on dit les autorités sont incapables, regardez, il n'y a pas de morts. C'est l'inverse. Bon, je ne dis pas que les gens regrettaient qu'il n'y ait pas une grosse épidémie, mais ils ont dit, mais ils nous ont affolé pour rien. Donc, quelque part, c'est pire. Et on ressort ça encore aujourd'hui contre Roselyne Bachelot, en disant, bon, là maintenant c'est bon, elle est à la culture, elle va plus sévir parce qu'elle avait fait acheter des vaccins, ils ont balancé ça en Afrique, ça servait à rien, c'est n'importe quoi. Et Mediapart a ressorti d'ailleurs, là, comment dire, ils ont réédité, hein, vous avez la date mars 2020, ils ont réédité un article de décembre 2009, en disant que c'était une grande manipulation de l'opinion publique. Bon. Donc il faut trouver un bouc émissaire au fait que la pandémie n'ait pas eu lieu. C'est quand même assez, bon, oui. Vous avez compris l'investissement de l'État, le fait que la surmédiatisation, on va dire c'est l'instrumentalisation. Mais implicitement, on est quand même presque en train de se dire, si on ne lui reproche pas d'avoir agi, si ce n'est pas elle qui est responsable de la faible mortalité, de dire, mais en fait, on avait prévu une pandémie, il n'y en a pas eu. Quand même, vous exagérez, vous avez manipulé l'opinion publique et donc des caricatures, où, même après le H1N1, quand de temps en temps dans la presse, l'historique est très facile à faire, on dit tiens, c'est bizarre, et quand même, on a trouvé une bactérie qui est résistante aux antibiotiques, et si les antibiotiques étaient plus efficaces, on en trouve dans les eaux usées, les gens en prennent trop, il y en a partout, en fait, c'est très très compliqué. Et donc le personnage, vous voyez la caricature à droite de Roselyne Bachelot, qui dit politiquement, je risque quoi? C'est presque d'actualité avec la mise en examen d'Agnès Buzyn. Pour mise en danger de la vie d'autrui, mais sur 16 000 plaintes. Voilà, il y aura sans doute encore quelques surprises. Donc on est dans la contestation de quoi en fait de je dirais pas directement ou pas simplement, je crois pas à ça en fait, enfin sincèrement, la contestation de « ils sont incompétents », c'est pas ça. C'est-à-dire c'est encore une fois une décision qui a été prise par des gens entre guillemets hors sol en vertu d'un rapport extrêmement distant avec la réalité du terrain qui fait que nous sommes tous victimes de gens qui sont hors sol. C'est-à-dire, des gens sont arrivés, leur ont montré des statistiques, ils ont fait des calculs, et puis ils ont dit, voilà, il va va y avoir plein de morts, donc il faut faire ça. Et après, ça ne se passe pas, et on dit, mais quelle est leur légitimité? C'est-à-dire que ça bouscule les représentations. Sans surprise, vous imaginez bien, c'est le troisième et dernier exemple, la Covid-19 pose effectivement complètement, si je rejoins vraiment le collègue, hein, la précédente présentation, cette idée de deux France qui s'opposent. Touche pas à Raoul, je trouve ça assez rigolo, parce que ça reprend, touche pas à mon pote. Sous-entendu, il y a une espèce de racisme anti-pro-hydroxychloroquine ou anti-vax, ou etc. Donc on est en train de rejouer la scission d'un territoire ou d'une population, mais je pense plutôt à une forme de fragmentation. C'est-à-dire il refuse nos opinions, il refuse notre savoir, c'est encore une fois Paris qui fait la leçon à Marseille. Et là, on est dans un rapport de force qui est, hélas, je dirais presque, qui est caricatural. La capitale politique, etc., depuis Philippe Auguste, et puis une des grandes villes, ou la capitale du Sud, si vous voulez, avec ce rapport de force. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu excessif, mais regardez, même si, en termes de, je dirais, de style, au niveau des intervenants et des voix qui sont là pour illustrer, je sais, avec des nuances, hein, j'exagère un peu, mais si ça peut susciter le débat, les interrogations, je pense que c'est pas plus mal. Deux styles complètement différents, gens qui ont fait une carrière, les deux ont fait une carrière tout à fait honorable, hein, que ce soit Delfrécy ou que ce soit Raoult. Mais c'est vrai que la médiatisation a rajouté aussi. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient, costume impeccable, Légion d'honneur, il a son masque, il fait tout bien comme il faut. Et puis l'autre qui vous reçoit dans son bureau, alors côté rock'n'roll, hein, j'ai une bague-tête de mort, je suis un peu un biker, j'ai des tableaux bizarres derrière moi. C'est évidemment de l'image. On n'est pas dans la. Si on regarde la bibliographie de Raoult ou celle de Delfrécy, c'est encore autre chose. On est quand même à un moment donné. Même en termes d'image, une fragmentation, je ne sais pas si c'est une forme de territorialisation, mais il y a le provincial et les parisiens. Il y a le provincial et les parisiens. Et ça, malheureusement, ça arrive dans toutes les grandes crises épidémiologiques, ou plutôt épidémiques. J'aurais pu parler de la peste de Marseille en 1721. Vous avez une tension entre les médecins de la cour, Versailles, qui disent, les médecins marseillais ont raconté n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a eu autant de morts. 1721, je ne parle pas là de Raoult et Delfrécy. 1721, pour le choléra, c'est à peu près pareil. Hein, quand dans les campagnes lyonnaises, les préfets envoient des médecins ou des officiers de santé en 1832, ces médecins arrivent et puis ils sont accueillis à coups de bâton par les villageois en disant « on veut nous imposer le savoir de la ville ». Mais le médecin de ville, qu'est-ce qu'il fait à la campagne? Pourquoi il vient là? Il ne connaît pas nos méthodes. Il va nous juger et puis il va s'attaquer à nos opinions et à notre manière de vivre. Parce que nous, comme dans le pays, on vit comme ça. Voilà. Il vient de la ville, qu'est-ce que c'est que ça? Un savoir médical qui vient de la ville. Un savoir médical qui vient de la ville, donc qui vient de la capitale, c'est suspect. Et c'est une réalité, hélas. Alors, hélas, vous allez dire, c'est le Parisien qui parle. C'est pas vrai d'ailleurs, je suis pas parisien. Mais on retrouve quand même très souvent dans les situations de crise, alors de crise sanitaire, c'est celle que je connais le moins mal parce que c'est ce qui m'intéresse, mais dans les situations de crise, c'est encore cette opposition, cette suspicion en disant, qui sont ces gens qui nous imposent des choses d'en haut et de très loin? Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas sur le terrain. C'est une question, là, en l'occurrence, qui est une question de géographie sanitaire, mais aussi de territorialisation du savoir, de territorialisation du pouvoir, et qui entraîne quand même des tensions et des frictions, pour ne pas dire des violences, pour ne pas aller jusqu'au terme trop fort de sécession, mais à un moment donné, on se dit, mais tout le monde est concerné par une pandémie, et au lieu de réunir les gens dans une seule voix, qui ne soit pas autoritaire, bien sûr, mais au lieu que ça rassemble les gens pour qu'ils fassent bloc, ça part dans tous les sens. Et avec le temps, encore plus. Le pass sanitaire, la vaccination, etc., etc. je ne développe pas, mais bon, j'avais donné une interview sur LCI. Hein, vous en souvenez, puisque vous m'avez découvert à peu près à ce moment-là. Sauf que j'ai reçu des menaces de mort peu après, parce que j'avais qualifié les antivax d'abstentionnistes sanitaires. Bon, c'est pas méchant, ben, je sais pas. Abstentionnistes sanitaires, et la chaîne m'a dit... Vous savez, faites attention parce qu'on a reçu des trucs un peu bizarres vous concernant. Bon. Trois conclusions. Enfin, trois idées en conclusion. Un des enseignements de l'histoire au-delà de cette territorialisation, mais face à une crise majeure, les certitudes sont à la fois indispensables et insupportables. Indispensables parce que sinon on ne fait rien. Et insupportables dans la mesure où on va vous les imposer et qu'il y a une espèce de réflexe qui consiste à dire, et la territorialisation du savoir, elle revient à ce niveau-là, consiste à dire, mais d'où vient ce savoir? D'où vient cette vérité? Pourquoi on nous impose cette vérité? L'expertise scientifique et la décision politique ne se renforcent jamais mutuellement. Ça, c'est un leurre complet. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un ministre avec 15 savants, 15 prix Nobel autour, qui va vous expliquer gravement, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il y aura toujours des gens qui diront, écoutez, vous êtes si intelligent que vous allez trouver un remède et puis on va arrêter de porter le masque et puis on va reprendre la vie normale tout de suite. Là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah bon, il faut une troisième dose, ouais, pourquoi pas une quatrième, etc. Donc ça ne fonctionne pas, ça non plus. Ça ne fonctionne pas. Faire très attention à ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. Historiquement, ça n'a jamais fonctionné. Hein. Quand Brousset donne des conseils au gouvernement en 1832, déjà, il n'arrive pas à sauver... Premier ministre, enfin président du Conseil, comme on disait à l'époque. Et puis l'épidémie s'arrête toute seule. C'est pareil pour la grippe espagnole. Hein. Ce qui a été mené, elle s'est arrêtée toute seule. On ne sait même pas pourquoi, comme la peste d'ailleurs en 1721. Et dernier point, je termine, j'ai trop parlé, désolé. Le droit à l'erreur des experts est inversement proportionnel au crédit public des voix dissidentes. C'est-à-dire les experts, on leur dit, attendez, vous avez des diplômes, vous avez des publications, on veut des résultats. Ah, il n'y a pas de résultats. À ce moment-là, les opinions, les avis, les certitudes de n'importe qui vont être mis sur un pied d'égalité. Puis c'est démocratique, finalement. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'à ce moment-là, vous allez sur Doctissimo et quelqu'un vous dit il faut faire ça pour pas attraper la Covid-19. Et puis vous avez un savant qui a 20 ans d'expertise derrière lui, qui passe à la télévision et lui trouve, mais bon, de toute façon, il passe à la télévision, donc. Moi, je trouve que voilà, le type qui écrit sur Doctissimo, c'est intéressant, je vais essayer ça. Donc, ça semble paradoxal, mais j'ai l'impression, moi, quand on observe un peu l'histoire, comme je le fais de temps en temps dans des livres ou autres, l'histoire de la médecine, et notamment des épidémies, qu'à chaque fois, on bute sur ce genre d'éléments qui ont, et je termine là-dessus, comme effet pervers de fragmenter encore plus une population qui souffre. Avec des morts, avec des gens qui sont dans l'angoisse, dans la panique, avec un tissu économique et social qui souffre aussi énormément en période de crise sanitaire, et par-dessus le marché, c'est même pas la maladie déjà de séparer les gens entre les gens qui sont sains et les gens qui sont malsains, etc. Le savoir et le rapport de force entre la capitale, les autorités et le reste de la population et les territoires a parfois, hélas, je le dis, c'est ce qu'on observe dans l'histoire, tendance à fragmenter encore plus les individus, les groupes, les communautés, les catégories sociales. Je vous remercie.